Matière à penser, Dominique Rousset.
Et bienvenue à tous pour une nouvelle série des Matières à penser en 5 épisodes et jusqu'à vendredi soir. Nous allons explorer la connaissance scientifique sur le monde animal, nous interroger sur les formes de la domination humaine, sur les souffrances infligées à de très nombreuses espèces. Nous allons reconnaître aussi la beauté de la biodiversité, les dangers qu'elle court et enfin rappeler les évolutions du droit français mais aussi européen en faveur des animaux et plus largement du vivant sur la planète. L'animal et l'avenir de l'homme, c'est notre thème cette semaine et ce soir, humanité, animalité, où sont les frontières? Tant d'années derrière nous, les humains, des centaines voire des milliers d'années à vivre, avec la certitude que notre espèce est séparée des autres et du reste de la nature. Les religions, les philosophies occidentales nous en ont bien persuadés. Aujourd'hui encore, en dépit des connaissances acquises, il semble que nous ayons du mal à renoncer à notre domination, à ne pas penser le monde comme notre propriété. Une attitude à l'origine des dégâts infligés à la planète, soutient mon invité de ce soir. Reconnaître l'animal pour ce qu'il est, c'est nous sauver. Bonsoir Yves Christen.
Bonsoir.
Yves Christen, donc biologiste, spécialiste en neurosciences, vous travaillez notamment sur la maladie d'Alzheimer humaine et vous vous êtes largement intéressé depuis de nombreuses années et à partir de très nombreux voyages aussi à l'animal et au traitement que nous lui réservons. D'où vous vient cet intérêt pour les animaux de vos autres travaux?
Je crois d'abord que ça vient depuis longtemps. Bon, les enfants s'intéressent aux animaux et je n'ai pas échappé à cela. Mais je pense que s'ajoutant à cette tradition qui vient de l'enfance, il y a le fait que, étant un amateur boulimique de la littérature scientifique, j'ai été amené à constater que la science nous disait quelque chose de façon de plus en plus nette, et c'est quelque chose, c'est que il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on a appelé un propre de l'homme. Par ailleurs, ayant passé du temps auprès d'animaux sauvages, je me suis aperçu qu'il y avait là un univers de sensibilité, d'intelligence, de réflexion sur le monde, d'attente sur le monde, d'intentionnalité, etc., etc. Et que tout ça est extrêmement riche. Et lorsqu'on découvre, lorsqu'on essaie de rentrer dans le monde d'une personne, que ce soit une personne animale ou d'un animal non humain, on se rend compte d'une richesse extrêmement importante.
Et vous en arrivez effectivement à ce titre, vous venez de l'évoquer, l'animal est-il une personne? Vous le mettez en forme de, oui, de question, ça vous a été contesté, mais on va y revenir et vous allez nous dire pourquoi vous êtes tout à fait dans cette conviction. Peut-être auparavant, si vous permettez, un petit rappel historique, la question de l'animalité s'est posé de tout temps, hein, définition entre ces frontières humanité-animalité est effectivement prégnante dans toute l'histoire de la pensée. On remonte tous les stoïciens pour qui...
Pensée occidentale, pour qui l'âme il faut dire la pensée occidentale.
Vous avez raison, c'est important.
Pour beaucoup de pensées orientales, ou chez les Indiens d'Amérique, dans beaucoup de populations asiatiques, il n'y a pas cette idée de dichotomie. C'est même très intéressant d'ailleurs à observer. Chez les Japonais, chez les Hindous, chez les Indiens d'Amérique du Sud, je parle ceux qui vivent en situation relativement traditionnelle, je crois qu'il n'y a pas cette idée d'une coupure aussi. D'ailleurs, il est remarquable que tant de populations considèrent que lorsque les gens meurent, leur âme va se trouver chez un animal, etc., etc. Il y a différentes manières de métaboliser ce genre de pensée. Mais donc, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique de la mentalité occidentale. La religion chrétienne, enfin les religions monothéistes plus généralement, y ont apporté leur grain de sel, si je puis dire. Peut-être aussi une forme de pensée rationnelle quand même, qui est l'héritage de la pensée grecque, qui lui est un héritage tout à fait différent de la pensée judéo-chrétienne, et qui a tendance à distinguer, à analyser, comme toujours quand on analyse, on trouve des séparations, des dichotomies, etc. Et ceci ayant été probablement exagéré au cours des siècles. Certains philosophes, comme vous le savez, je pense notamment à Descartes, à Kant, etc., y ont aussi apporté leur grain de sel dans le sens d'une séparation toujours plus grande, plus récemment à Heidegger.
D'un animal-machine, objet en
voilà,
tout cas.
Voilà, l'animal-machine, l'animal-objet, ou l'animal qui n'est pas proprement parlé un être qui existe. Heidegger nous dit que les animaux vivent mais qui n'existent pas, par exemple. Rationnellement, ça n'a pas grand sens de dire ça. Mais il le dit, il le pense, et il n'est pas le seul à penser ce genre de choses. Il est clair que lorsqu'on tente à décortiquer les choses, quelquefois on voit apparaître des barrières qui n'existent pas nécessairement. Je dois vous dire d'ailleurs qu'au début de ma carrière scientifique, J'aurais eu un peu tendance à voir les choses comme ça. Vous voyez, quand vous disséquez, ben, vous ne voyez pas certaines choses. Et j'ai beaucoup d'amis de très grands scientifiques dans le domaine des neurosciences, que je ne nommerai pas parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, mais qui continue de voir une dichotomie.
Oui.
Et je cherche pas trop, parce que si vous savez, convaincre des amis qui se trompent, c'est toujours un peu délicat, surtout s'ils sont un peu plus âgés que vous. Hein. Mais pour eux, c'est presque une évidence. Alors, est-ce que c'est une, comment dirais-je, quelque chose qui subsiste d'une éducation religieuse quand ils étaient enfants, même si aujourd'hui ils sont à peu près tous athées? Est-ce que c'est un présupposé philosophique, que sais-je? Mais beaucoup continuent à voir cela. Et aussi, il faut quand même le dire, parce que lorsqu'on étudie des animaux, et que donc on inflige quand même quelque chose, sinon des souffrances, du moins qu'on s'impose comme le maître des animaux que l'on étudie, eh bien, c'est plus confortable de penser qu'on a le droit de le faire.
Parce qu'ils n'ont pas la sensibilité,
parce qu'ils n'ont pas ceci ou cela,
etc. Hein. Si l'on revient un petit peu en arrière, vous avez raison, la pensée occidentale, j'aurais dû évidemment le dire, bon, c'est que les religions monothéistes, il y a l'animal objet, et puis il y a l'animal homme, justement. Alors, dans les pensées orientales, on le voit beaucoup, le dieu Ganesh, pour prendre un seul exemple que chacun connaît en Inde. Mais même notre conception à nous, en Occident, de l'animal homme, par exemple, on faisait des procès aux animaux au Moyen-Âge. Il arrivait même qu'on les condamne à mort.
Alors, c'est très intéressant, parce que cet exemple, mais beaucoup d'autres aussi, montrent que même dans des situations où on pouvait établir une sorte de fossé entre l'homme et l'animal, les gens savent bien que c'est pas tout à fait vrai. Beaucoup de gens vont considérer un animal comme étant une chose, comme une machine, mais celui qui tape sur un cheval pour le faire avancer, il tape pas sur sa voiture quand elle est en panne, parce qu'il sait bien qu'en tapant sur la voiture, on la fera pas avancer. Alors qu'en tapant sur le cheval ou sur l'âne, on va peut-être le faire avancer, parce qu'il y a une intention dans le cheval ou dans l'âne qui fait qu'il est sensible à la souffrance, à l'intention des autres, etc., etc. Donc vous voyez, même ceux qui nient certaines choses peuvent très bien se comporter en ayant conscience, ou sans en avoir conscience, mais ça revient un peu au même, en ayant en tout cas quelque part le sentiment qu'un animal, c'est pas une chose.
Pour vous, Yves Christen, la cause est évidemment entendue, et depuis bien longtemps, vous l'avez dit, et vous allez même jusqu'à nous dire que l'animal est philosophe, vous allez nous dire comment. Alors si l'on reste sur ce premier ouvrage, l'animal est-il une personne? Vous partez d'un constat très simple aujourd'hui, il n'est pas possible de rester en dehors du fait que la science nous prouve constamment, vous en donnez de très nombreux exemples, et vous allez jusqu'à dire évidemment que l'animal nous fait sentir la réalité de cette altérité, mais chapitre par chapitre dans cet ouvrage-là, vous les posez quand même sous forme d'interrogation, il y a un point d'interrogation à chaque fois, mais vous les réfutez. L'animal sans raison, mais non. L'animal sans vie sociale, bien sûr que non. L'animal sans morale, non plus. L'animal sans histoire, on va y revenir. Vous leur prêtez des sentiments, la compassion, la capacité d'assistance aux autres.
De caractéristiques qui sont presque la signature de la nature animale. Vous savez, j'ai beaucoup critiqué Heidegger, mais d'une certaine manière, on pourrait réhabiliter Heidegger en reprenant ce qu'il dit de l'animal en le mettant sur le compte du végétal. Vous voyez, par exemple, quand il dit « la pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde, l'homme est configurateur de monde », s'il disait « la pierre est sans monde, le végétal est pauvre en monde et l'animal est configurateur de monde », il dirait une vérité. C'est vrai que, de ce point de vue-là, il y a une grande différence entre le végétal et l'animal, même si ce sont des êtres vivants dans les deux cas. La grande différence, c'est que les animaux ont un cerveau. Et c'était une machine à interpréter le monde et à philosopher. On pourra peut-être en discuter plus tard. Ouais. Donc, voyez, il y a un regard, je crois, sur l'animal qui doit tenir compte de tout ça.
Vous aimez beaucoup les léopards?
Alors oui, j'aime beaucoup les léopards. J'y ai consacré
espèce menacée, on le rappelle.
Temps. Ce n'est pas vraiment une espèce menacée, parce que le léopard est un animal très très opportuniste, qui peut se débrouiller assez bien, y compris en vivant très proche des humains, proche des grandes villes, etc.
Ah bon,
en chassant éventuellement le chien, le mouton, que sais-je. Bon, c'est une très belle bête, il faut bien la reconnaître. Mais là aussi,
ce qui serait quand même une sacrée transformation de sa personnalité, pour le coup, non? S'il se mettait à vivre de manière plus domestique auprès des hommes.
Ah oui. Non, ça, il faut pas souhaiter ça, bien entendu. Mais il peut vivre près des hommes sans devenir domestique pour autant. Vous savez, ça vaut aussi pour les pumas, ça vaut aussi pour les tigres. On a trouvé des tigres près de Vladivostok. On a trouvé des pumas dans des grandes villes américaines. Moi, j'ai une de mes amies qui est professeure à Stanford, qui en a rencontré un sur le parking de Stanford le soir tard, enfin, ou la nuit. Ces gens-là sont capables de se cacher, d'être discrets, de pas faire de bruit. Ils se déplacent sans faire de bruit, etc. Donc, ils ont une une très grande habileté qui leur permet de survivre au contact des hommes. Mais c'est intéressant quand vous évoquez les léopards, parce que l'une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé à ces gens-là, c'est pas seulement que ça ne
C'est drôle que vous disiez ces gens-là, voilà. C'est deux fois.
Ah, je dis ça tout le temps. C'est automatique. C'est aussi le fait que quand j'ai vu un léopard pour la première fois, je voulais faire une belle photo. Et puis, j'ai vu beaucoup d'autres léopards. Je suis peut-être celui qui connaît le plus de léopards différents au monde, enfin qui les reconnaît individuellement. Et je me suis rendu compte que, d'abord, ils étaient différents les uns des autres, qu'ils avaient des histoires, et j'ai assisté à beaucoup de choses, souvent pathétiques. À partir de ce moment-là, vous rentrez, vous comprenez, dans la vie des gens. Hein. C'est exactement comme si on vous parle de la misère humaine de façon générale. Et puis si vous, vous voyez en bas de chez vous le petit enfant qui est celui de la voisine, qui est en train de pleurer. Dès lors que vous rentrez dans la vie des gens, quelque chose de différent vient à émerger. C'est ça le miracle du regard sur les animaux.
Sans culture, donc je prends quelques chapitres, oui. Un petit peu, hein, vous pouvez en choisir d'autres, mais sans culture, bien entendu, on a en tête l'utilisation de l'outil, hein, le oui. Singe, on sait que le singe est capable de saisir une pierre ou un outil pour casser des noix. Plus subtil, il est capable de voler des lunettes, par exemple, sur des sites touristiques, oui. Et de ne les rendre que si on lui donne quelque chose oui. En échange. Les éléphants, alors ça j'ai trouvé extraordinaire, sont capables de fabriquer des éventails, pas seulement oui. De se servir d'une branche, mais de la tailler, d'en fabriquer quelque chose capable de chasser les mouches.
Oui. Il y a beaucoup d'exemples, y compris chez les animaux.
Les corbeaux.
Alors surtout les corbeaux. Les corbeaux sont des animaux extrêmement très proches de l'homme. Je vais peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais je pense que du point de vue cognitif, il y a probablement moins de différence entre les hommes et les corbeaux qu'entre les corbeaux et les moineaux, par exemple. La famille des corvidés, ce sont des animaux extrêmement intelligents qui ont des compétences cognitives très très proches de celles de l'espèce humaine. Surtout les corbeaux qui ont été les mieux étudiés sont ceux de Nouvelle-Calédonie, qui fabriquent beaucoup d'outils. Et un travail récent porte sur la fabrication des hameçons. Alors on sait que depuis longtemps qu'ils fabriquent des hameçons, mais les derniers...
Avec des bouts de fer qu'ils trouvent dans la nature
Bouts de tout d'ailleurs, mais y compris des bouts de végétaux. Par parenthèse, notez bien que dans le cas de l'espèce humaine, pour autant qu'on le sache, avec les études des préhistoriens, l'hameçon s'est inventé il y a à peu près 90 000 ans. Hein, donc c'est un truc relativement récent, Homo sapiens, c'est pas l'Homo erectus. Eh bien, les corbeaux savent très bien faire ça. Et non seulement ils fabriquent des hameçons, mais ils en fabriquent de toutes sortes. C'est-à-dire qu'en fonction du matériel disponible, qui peut être un bout de branche, une feuille, alors ils savent les tordre de différentes manières, en fonction aussi de ce qu'ils veulent en faire de cet hameçon, ils fabriquent des objets différents. C'est très intéressant parce que vous voyez que ça n'est pas quelque chose de purement stéréotypé. Toujours la même chose, hein. L'idée que l'on a traditionnellement de l'instinct c'est merveilleux, mais ça permet de faire quelque chose de totalement stéréotypé par des organismes qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font.
Et on ne parle pas d'imitation de l'homme, par exemple. Certains animaux sont capables d'imiter l'homme.
Alors c'est une autre chose.
Là, on est dans l'innovation.
Hein, il va falloir dire un mot de l'imitation, si vous le voulez bien. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est qu'il s'agit d'une innovation intellectuelle, mais qui est adaptée à la tâche. C'est-à-dire que l'animal qui a fait cela, il faut qu'il ait réfléchi, il faut qu'il ait eu un plan dans sa tête préétabli sur ce qu'il voulait faire. Donc tout ça est bien réfléchi. Un mot pour l'imitation, puisque vous avez évoqué ça. Quand j'étais enfant, on considérait que les perroquets étaient pas intelligents, mais ils étaient capables d'imiter les ménates aussi. Aujourd'hui, ceux qui sont sceptiques quant aux performances cognitives de l'animal considèrent que ce qu'il y a de plus spécifique à l'homme, c'est le fait d'être capable d'imiter. Et ils prétendent que les animaux seraient très intelligents, mais pas capables d'imiter. Par exemple, si vous prenez un chimpanzé et que vous le soumettez à certaines tâches consistant à utiliser une espèce de petite boîte qui contient une friandise à l'intérieur, et pour la récupérer, cette friandise, il faut la manipuler, faire différents types de mouvements pour faire sortir l'objet qui est à l'intérieur. Les enfants et les singes font cela, très bien, mais imaginez que un humain montre ça à un enfant et qu'il fasse 10 mouvements différents avant d'arriver à faire sortir le bonbon. L'enfant aura tendance à refaire les mêmes 10 mouvements. Si vous mettez un chimpanzé à la place et qu'il est clair qu'on peut faire sortir l'objet après 6 mouvements, l'humain qui fait la démonstration, il fait 10 mouvements. Mais on aurait pu le faire avec 6. Le chimpanzé préférera le faire avec 6. C'est-à-dire que dès lors qu'il a la compréhension du phénomène, il préfère se baser sur sa compréhension plutôt que sur l'imitation. Pour autant, il est parfaitement capable d'imiter. Donc c'est intéressant parce qu'on aurait l'impression de pratiquement que ce qui se dégage de ça, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pensait avant. C'est-à-dire qu'à la limite, on dirait le chimpanzé, il est plus intelligent, mais moins capable d'imiter. La vérité, c'est que le chimpanzé est très intelligent, à peu près aussi intelligent que l'homme pour tout un certain nombre de capacités, mais il est aussi capable d'imiter.
Et si l'on continue sur nos chapitres, j'ai choisi celui sans histoire. Là aussi, vous dites bien sûr qu'ils ont une histoire. On va parler de la mémoire aussi, c'est extraordinaire. D'une mémoire très, très sélective. Sans histoire, c'est Jane Goodall qui est très, très célèbre, bien sûr, qui a très, très longuement, comme on le sait, travaillé sur les chimpanzés et beaucoup, beaucoup contribué à leur connaissance, qui a observé une guerre extraordinaire qui a duré plus de 4 ans entre tribus différentes de singes qui en venaient à des actes d'attaque, de cruauté, y compris sur les enfants, ce qui est très rare, de vengeance, en clair, de comportement humain.
Oui, Jane Goodall a effectivement décrit ce qui est souvent considéré comme le premier exemple connu dans la littérature scientifique de guerre animale. Et on sait depuis, ça a été bien documenté dans différents endroits, qu'effectivement les chimpanzés se font la guerre et qu'ils utilisent différents types de stratégies. Et
mais qu'ils ont la mémoire de la guerre, elle peut durer.
Ils ont évidemment la mémoire de la guerre, ils ont des rancunes tenaces, etc. Ça, je crois que c'est effectivement tout à fait exact. Mais quand je parle de l'historicité, ça n'est pas tellement au fait qu'il se passe des événements de type guerre, et quand on a appris l'histoire à l'école, en tout cas dans ma génération, les guerres comptaient beaucoup dans l'histoire événementielle. Mais maintenant, peut-être un peu moins. Mais il y a aussi la question importante dans le domaine de l'histoire ou de l'historicité, qui est celle du renvoi au passé. Et ceci fait renvoi à la notion de mémoire épisodique. C'est ce à quoi vous parliez de manière un peu allusive tout à l'heure. Oui. Alors, bien entendu, personne ne conteste que les animaux aient de la mémoire. Plus personne ne le conteste aujourd'hui. La mémoire épisodique, c'est un peu différent. Si vous prenez un animal tel qu'un écureuil ou certains oiseaux comme les casse-noix, qui peuvent cacher leurs graines dans des centaines, voire des milliers de cachettes, ils se souviennent de là où ils ont caché leurs objets. Ça ne prouve pas pour autant qu'ils se souviennent de quand est-ce que j'ai caché ma graine. C'est pas la même opération. Ils ont d'ailleurs pas forcément besoin de s'en souvenir dans tous les cas, puisque après tout, l'important c'est de savoir que j'ai une graine ici, une graine là, etc. Et donc le jour où j'ai besoin de la récupérer, je la récupère. Mais des expériences très fines ont montré également chez des corvidés, enfin chez une sorte de pie, les pies font partie également du groupe des corbeaux, qu'effectivement les oiseaux avaient une mémoire épisodique, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de se souvenir de quand ils ont, par exemple, caché quelque chose. Donc, ils peuvent se projeter mentalement dans le passé, mais également, ils peuvent se projeter mentalement dans le futur. C'est très important sur le plan de l'histoire, sur le plan philosophique. Et vous savez qu'il y a ce fameux passage de Nietzsche disant que les animaux sont fixés à l'instant, effectivement. Heidegger a repris ça également. C'est tout simplement faux. Alors, chez Nietzsche, c'est admirable parce que toujours il rajoute la TVA dans sa littérature, hein. Mais ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Les animaux ne sont pas comme ça fixés dans le temps. Ils ont des souvenirs sur ce qui s'est passé dans le passé et ils ont une projection sur l'avenir. Par parenthèse, d'ailleurs, ces études sont intéressantes aussi parce qu'elles mettent l'accent sur un point important, ce qui est que la mémoire ne sert pas à se souvenir du passé. Finalement, on s'en fout un peu du passé. La mémoire, elle sert surtout à faire des projections sur l'avenir. Et ces études-là nous permettent effectivement de bien voir cela.
Pas seulement de savoir, mais de savoir qu'ils savent.
Alors ça, c'est encore autre chose.
Ils sont conscients
qu'ils savent. Il y a la notion du savoir sur le savoir, qui est une chose, et puis il y a une autre dimension cognitive, qui est le fait d'être capable de se projeter mentalement dans l'avenir. Hein, ce que nous faisons, nous, tout le temps. Vous allez chercher votre enfant à l'école, eh bien, c'est ça votre objectif, mais vous allez avoir dans votre sac à main quelque chose qui n'est pas destiné à chercher votre enfant à l'école, mais peut-être à acheter des timbres, et donc vous aurez pris un peu de monnaie, que sais-je. Enfin, nous fonctionnons constamment comme ça, nous projetant sur ce qu'il y aura lieu de faire dans l'avenir.
Et chez l'animal, alors, exemple ?
C'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Et un exemple de projection dans le futur, c'est que, par exemple, on l'a vu chez les mangabés, qui sont des singes, l'animal se promène dans la forêt, il voit que les fruits sur cet arbre ne sont pas mûrs. Il évalue que dans 2 jours, ils seront mûrs. Donc, dans 2 jours, il reviendra ici. Donc, il s'est projeté mentalement dans le futur. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en même temps, ça ne l'est pas. Parce que les animaux non humains ont exactement les mêmes problèmes que nous. Ils vivent dans le même monde que nous. Donc, il est normal qu'ils aient des outils cognitifs pour fonctionner dans ce monde qui est exactement le même que le leur.
Et pour vous, c'est donc la science qui déconstruit cette idée que l'animal serait sans intelligence, sans conscience,
je pense que,
sans langage, on le sait. Enfin, langage, on le sait depuis longtemps.
Ben oui et non, beaucoup de gens continuent à penser que les hommes n'ont pas de langage. Non, c'est pour beaucoup, c'est un domaine ouvert. Je pense que certains ont l'intuition que les animaux ont ces capacités sans avoir fait d'études scientifiques. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a un débat, la seule manière de répondre à une question qui est en débat, c'est l'étude objective de la situation. Et ça, ça s'appelle la science. Ce qui est très important, c'est de constater que un certain nombre de penseurs ou de commentateurs semblent comme imperméables à cela. Vous voyez, il m'est arrivé plusieurs fois dans des débats, se passant de manière assez paisible, voyez-vous, où chacun fait une conférence, une minute, une demi-heure, et puis d'avoir expliqué un certain nombre de choses et d'avoir quelqu'un, ou soit notre conférencier qui est à côté de moi ou quelqu'un dans la salle qui me dit quelque chose genre, monsieur Christian, ce que vous dites est très intéressant, manifestement vous connaissez bien les choses, moi je suis d'accord avec vous, mais voyez quand même les animaux, tout ça est vrai mais les animaux n'ont pas de conscience. Et alors pour ne pas être grossier, je dis pas, mais alors si vous m'avez écouté, vous avez bien vu que j'ai quand même essayé d'expliquer qu'ils avaient une conscience. Donc tout se passe comme si les gens peuvent écouter, mais en même temps ça coule un petit peu comme l'eau sous les plumes d'un canard.
Et on va y revenir parce que ça a son impact sur la crise écologique que nous vivons, qui pour vous est un point central.
Oui.
Messieurs, nous descendons du singe, les salons fuyant ça et là. Travaillant ferme des ménages, plus heureux que Rudyard qui plein jour, non t'as qui la preuve, hélas. Voilà où mènent les études. Faire d'être un homme le savant, s'en va plein de béatitudes, interroger les latitudes, mais en revient au rang-temps. Prince ou tripier, fille ou marquise, qu'on se le dise, on descend tous du cocotier. Aujourd'hui vêtu de smocage, d'habits noirs de robe du soir. Hier encore nous étions des singes, sans souliers, sans bretelles, sans linge, à poil vraiment pas beaux à voir. Quel chemin parcouru ma chère, et vous madame aux pieds mignons. Quand je pense que nos grands-mères quadrumanes sexagénaires grimpaient aux chaînes de Cro-Magnon. Prince ou tripier, fille ou marquise, qu'on se le dise. On descend tous du cocotier. Adieu, cher aïeul misanthrope, général dans l'habillement. Le portrait du pithécanthrope te remplacera d'où n'y a au mur de mon appartement. Méditant sur ce poil obscène, celle que prenant cet œil pervers, en voyant les foules humaines grimper le long du petit chêne, j'aurai la clé de l'univers. Sous tripier, poussé, pourquoi on veut. Oui, on marque, on est ce que ça vaut. Qu'on se le dise. On défend tous du.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Avec notre série cette semaine, l'animal est l'avenir de l'homme, mais avec Yves Christen, biologiste, spécialiste de neurosciences, et qui se convainc et nous convainc que l'animal est une personne. Nous allons un petit peu plus loin dans la connaissance scientifique de toutes ces formes. Au passage, ce que nous venons d'entendre, une petite pépite de Gilles, donc comédien, poète, écrivain, né à Montreux. Yves Christen, on est en train de donner un très grand nombre d'expériences sur l'animal, vie sociale, une histoire, une culture bien sûr. Et un point sur lequel vous insistez énormément, l'animal est un être singulier. Ils ne sont pas tous pareils, bien entendu, une très grande disparité dans leur personnalité. Pas seulement dans leur aspect physique, vous nous avez parlé des léopards, mais des personnalités très différentes dans un même groupe, et d'une même espèce. Et c'est très important de le savoir et de le comprendre.
Oui, je crois que c'est très important. C'est d'ailleurs une idée relativement nouvelle dans le domaine des études sur l'animal, que le fait que dans un très grand nombre d'espèces, des mésanges, bien sûr des singes, toutes sortes d'espèces très différentes, on a effectivement constaté que les animaux de même espèce n'avaient pas la même personnalité.
Mais ce que tout le monde sait quand on a un chien ou un chat.
Oui, mais vous savez, beaucoup de gens savent des choses quand ils ont un chien ou un chat que des gens plus cultivés ne savent pas. Et c'est un phénomène très intéressant. D'ailleurs, à propos de chiens, vous savez, lorsque le fameux chien Rico, enfin, lorsqu'on a fait ce travail montrant qu'il était capable de mémoriser 200 noms différents, ça a étonné le monde scientifique, les performances cognitives de ce chien, et puis qui est un border collie, et puis d'autres chiens qui ont été étudiés ensuite. Mais beaucoup de propriétaires de chiens n'étaient pas surpris. Ils disaient, mais moi, j'ai toujours su ça. Donc, c'est toujours pareil. Des gens qui sont au contact de quelque chose peuvent voir des choses que les intellectuels ne voient pas. Vous pensez aux enfants. À une certaine époque, certains intellectuels estimaient que l'homme était une page blanche, que tous les humains étaient les mêmes à la naissance. Et toutes les mères de famille qui ont eu plus d'un enfant savaient très très bien que leurs propres enfants, qui pourtant étaient génétiquement proches, n'étaient pas les mêmes, de toute évidence, et depuis le plus tendre enfance. Mais donc des fois, il faut démontrer, redémontrer, de manière un peu laborieuse. La science est un peu laborieuse parfois, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui clairement démontré dans de nombreuses espèces. C'est une idée qui va assez frontalement contre l'enseignement de beaucoup de penseurs et de philosophes. Je cite quelquefois une phrase de Luc Ferry, je n'ai rien contre Luc Ferry, mais dans le domaine de l'animal, je crois d'ailleurs qu'il a évolué dans son point de vue. Il a notamment écrit une fois que tous les humains étaient différents les uns des autres, mais c'est pas pareil pour les animaux. Regardez les fourmis sont toutes les mêmes. Bien entendu, Luc Ferry, évidemment, n'est pas fondé à émettre un jugement sur les différences entre les fourmis, car lui-même, s'il était là, il ne prétendrait pas être un spécialiste des fourmis. Mais de surcroît, ceux qui ont étudié les fourmis, par exemple, je pense à une chercheuse russe qui a travaillé sur les fourmis dans des labyrinthes, je passe les détails, elle a bien montré que les différentes fourmis de la même espèce, du même groupe social, étaient cognitivement différentes. Et ça vaut évidemment pour toutes sortes d'individus. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas de différence entre deux fourmis, ou entre deux léopards, ou entre deux éléphants, ou entre deux Congolais. Vous savez, à l'époque où j'étais enfant, on lisait Tintin au Congo, et tous les petits Congolais étaient tous les mêmes. Hein. Et puis Tintin en Chine, tous les petits Chinois étaient tous les mêmes. Bien entendu, quand on voyage un petit peu, on se rend compte que tous les Africains ne sont pas les mêmes, et que tous les Chinois ne sont pas les mêmes, et que même non seulement ils ne sont pas les mêmes, et non seulement ils sont nombreux, mais parmi les Chinois, il y a des gens extrêmement différents, par tous égards, la taille, la sensibilité, etc. Quand on rentre en profondeur dans la connaissance de quelque chose, on se rend compte qu'apparaissent des différences qu'on ne voyait pas en premier abord.
Et on ne veut pas toujours le faire. Vous citez le cas du chasseur. C'est intéressant. Un chasseur, par exemple, pour lui, évidemment, l'animal, si on parle de son chien, c'est un être à part entière, pour les raisons que vous venez de donner. Il a une complicité, une familiarité avec lui. Mais le gibier, non. Parce que ça l'arrange, au fond.
Bien sûr. Mais même si vous prenez le chasseur par rapport au chien, je n'ai jamais fait cette expérience, mais peut-être ai-je dû la faire. Si vous interrogez un chasseur, sous l'angle « l'animal est-il une personne ?» et que vous lui parlez des chiens en général, probablement qu'il vous développera une façon de voir qui montre que pour lui, les chiens ne sont pas les personnes. Si maintenant, au lieu d'aborder le problème comme cela, vous l'abordez sous l'angle de son chien, vous allez vous apercevoir que de facto, il considère son chien comme étant une personne. Tout dépend sous quel angle vous abordez les choses. Ouais.
Mon chien à moi, il lui manque que la parole, quoi. Voilà. Ce type de phrase que vous avez souvent relevé. Oui, je reviens. Une des causes de la crise écologique, hein, c'est vous qui le dites, c'est justement cette méconnaissance de l'intelligence animale et de sa sagesse. Là, on va s'approcher de l'animal philosophe, qui est une autre de vos thèses. Il nous faut retrouver du bon sens, il nous faut retrouver le respect de l'animal et de la nature en général.
Il est certain que,
et il nous faut les écouter,
que la principale cause du désastre écologique actuel et plus encore de celui qui est prévisible, c'est l'abondance de l'espèce humaine et le fait que l'espèce humaine a conquis l'ensemble de la planète, a installé des bâtiments partout, si ce n'est des usines, et que par ailleurs l'espèce humaine a proliféré. Tout ceci, bon, c'est fait naturellement, les gens prolifèrent sans forcément qu'on leur demande de proliférer, mais enfin, encore certaines religions ont encouragé à cette prolifération. Mais il est clair que le fait que l'homme se soit arrogé le droit de tout faire et de considérer que la planète devait lui être soumise, alors on voit ça très bien chez Kant. Chez Kant, c'est presque pathologique, le mépris avec lequel il parle du mouton qu'on a le droit de dépecer quasiment vivant. Et la peau du mouton, elle est à moi, elle n'est pas au mouton. Ça ne correspond à aucune espèce de logique, par parenthèse. Hein. Mais cette façon de mettre l'humain au-dessus de tout et de donner à l'humain tous les droits, est évidemment la cause du problème écologique, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir d'autres problèmes écologiques sans les humains. Hein. Par parenthèse, on a montré que certains singes, par exemple, pouvaient, comment dirais-je, avoir une influence écologique, notamment des singes pêcheurs d'huîtres. Donc, ça se traduit par le fait que les huîtres, localement, où il y a ces singes, qui sont des macaques, tendent à être plus petites, parce qu'ils ont consommé les plus grosses, etc. Donc, tous les animaux ont une influence sur la planète, sur leur environnement. Mais il est assez clair que l'espèce humaine a une influence infiniment plus importante que toutes les autres espèces. Donc ça, il n'y a guère de doute que si quelqu'un est coupable du désastre planétaire, ce quelqu'un, c'est pas l'orang-outan du coin, c'est même pas les fourmis, ni les rats, ni quoi que ce soit, ce sont les humains.
Pourquoi dites-vous que les animaux sont des philosophes, c'est-à-dire qu'ils donnent du sens aux choses?
Eh bien, la principale raison, c'est parce que les animaux, c'est-à-dire les créatures pourvues de cerveau, à la marge, il y a des animaux qui ont évacué leur cerveau, si je puis dire. Mais ce sont des êtres qui fonctionnent en ayant des conceptions du monde. Le cerveau n'est pas du tout ce que les gens croient. Ce n'est pas une sorte de caméra qui filme le monde. C'est pas du tout ça. Le cerveau, c'est quelque chose qui imagine le monde, qui donc élabore constamment des conceptions du monde. Et grâce aux organes des sens, les porteurs de cerveau sont capables de voir s'il y a une adéquation entre leur conception du monde et le monde tel qu'il est en face d'eux. Il y a en général une assez bonne adéquation, parce que s'il n'y en avait aucune, ces animaux-là auraient disparu depuis belle lurette. Ils n'auraient pas été sélectionnés par la sélection naturelle. Donc il faut qu'il y ait une forme d'adéquation. Mais le propre du cerveau, ça n'est pas de photographier le monde, c'est de le concevoir, c'est de le penser. Et il en va de même pour tous les animaux. Par parenthèse, les cerveaux humains ne fonctionnent pas différemment des cerveaux de singes ou des cerveaux de rats, et ni même des cerveaux d'insectes. Ce sont les mêmes types de fonctionnement, les mêmes types de cellules, les mêmes types de mécanismes du système nerveux, les mêmes types de molécules, etc. etc. Il n'y a rigoureusement rien de particulier dans un cerveau humain par rapport aux autres cerveaux animaux. Il y a plus de cellules et donc il y a plus de connexions cérébrales et ça a des conséquences très importantes sur le psychisme des humains par rapport aux animaux non humains. Mais il n'y a pas une espèce de mécanisme moléculaire spécial, quelque chose d'extraordinaire. Non, tout...
L'homme est donc un chimpanzé exceptionnellement intelligent ou doté de plus de cellules?
La différence d'intelligence...
C'est une question qu'on doit vous poser souvent dans ce
L'homme est d'abord un grand singe. Hein. Tout à l'heure dans la chanson, on disait que l'homme descendait du singe. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que l'homme est un singe. Donc, c'est comme si on disait, est-ce que le rouge-gorge descend de l'oiseau? Le rouge-gorge est un oiseau. Donc, l'homme est un grand singe et les performances cognitives de l'homme par rapport aux autres grands singes ne sont pas très différentes. Il y a une très belle étude qui a été faite il y a quelques années, qui a été publiée dans Science, qui montrait que quand on compare les différents grands singes, l'homme et les autres grands singes, il n'y a pratiquement pas de différence sur ce qui correspond à peu près au quotient intellectuel. Les différences qui existent portent sur l'intelligence sociale. Je crois que c'est vrai, mais je crois que l'article en question ne le démontre pas, parce que dans l'article en question, vous avez des petits humains qui ont été testés sur les genoux de leur maman, par un être humain, alors que le singe, lui, il a été testé en face d'un être humain. Donc je crois que ce genre d'expérience ne permet pas de tester l'intelligence sociale, puisqu'on ne lui donne pas les moyens, il aurait fallu que ce soit testé par un autre singe de son espèce. Néanmoins, je crois qu'il est vrai qu'il y a plus d'intelligence sociale chez les humains que chez les chimpanzés. Mais pour ce qui est de la compréhension du monde, vous voyez, de la logique, du concept de causalité, et pour quelle raison y a-t-il ça? C'est parce que tous les animaux qui vivent dans ce monde-ci, ils ont besoin d'avoir une réflexion sur la cause des phénomènes. De savoir que chaque chose qui se passe a une cause en amont. On n'est pas obligé de Leibniz et de philosopher sur le principe de causalité. Tous les êtres vivants ont besoin d'avoir ce type de regard sur le monde.
Les toutes dernières trouvailles, enfin les toutes dernières recherches scientifiques, celles qui vous passionnent, j'en ai une à vous citer, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est rapportée par Jean-François Toussaint, lieu dans un article récent, une étude anglo-américaine qui daterait de 2015. Jean-François Toussaint rapporte celle-ci: les humains ne seraient pas les seuls à avoir des capacités cognitives nécessaires pour cuisiner. Et il s'appuie, enfin il nous cite 6 études. Les singes ont découvert qu'ils préféraient la nourriture cuisinée, donc peut-être plus chaude que froide, en tout cas plutôt cuisinée que crue. rue, au point qu'ils sont prêts à céder la nourriture pour attendre qu'elle soit cuisinée, quand ils ont compris qu'on pouvait le faire pour eux, qu'ils sont capables de transporter la nourriture crue et de la stocker en prévision d'une opportunité de la faire cuisiner. C'est tout à fait extraordinaire.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant là-dedans, c'est ce que ça révèle de différents aspects de la cognition, comme par exemple le fait de mettre quelque chose de côté pour un usage ultérieur.
C'est ça.
Et là, on retrouve la question de l'historicité. Hein. Et là encore, ça vient en contradiction avec une idée répandue qui est que le singe se promène et puis il trouve comme ça ce qui lui convient. Il y a une phrase de Lévi-Strauss, et j'adore Lévi-Strauss, mais et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, il ne pensait plus du tout comme ça. Mais dans les structures élémentaires de la parenté, où précisément il montre l'intelligence des sociétés dites primitives, et à l'époque, on n'était pas très convaincus qu'ils aient un esprit comparable au nôtre. Il dit, les singes, par exemple, ben, ils se promènent dans la savane, et puis ils ne réfléchissent à rien, quoi. Ils trouvent un fruit, ils le mangent. Pareil pour leurs relations sexuelles et familiales. Ils voient une femelle, ils copulent. C'est pas vrai du tout. Depuis, on sait très bien que non seulement les singes ont des structures de la parenté assez comparables à celles des sociétés humaines, que ça se passe pas au hasard, n'est-ce pas? C'est pas n'importe qui copule avec n'importe qui. Qu'il y a des problèmes de hiérarchie, de structure familiale, de tradition, de tout ce que vous voulez, et également qu'ils sont capables d'avoir un rapport historique avec les objets. Par exemple, on peut mettre de côté un objet pour l'utiliser plus tard, dans la perspective d'en faire autre chose. Donc là encore, on est dans la relation à l'histoire, et on sort du piqué du temps. Et l'autre élément, que ça montre aussi, votre anecdote, c'est que, bien entendu, des animaux qui ont pour habitude de consommer tel ou tel type de nourriture, peuvent très bien trouver du plaisir à quelque chose de nouveau s'ils ont accepté d'y goûter et puis se rendre compte que finalement c'est sympa. Et également,
ce qui est extraordinaire, c'est
de faire des échanges.
Oui, c'est ça. Ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est de mettre de côté et puis de le tendre à l'homme, j'imagine.
Oui, et puis de le négocier. Alors c'est un peu, c'est formidable, mais en même temps c'est un peu décevant parce que sans entrer dans un grand débat sur la crise, les crises économiques, les études qui ont été faites en matière de conception économique des animaux, notamment des singes, les singes aiment bien avoir un petit portefeuille avec des jetons qu'ils peuvent échanger, enfin de l'argent, quoi, si vous voulez, qu'ils échangent pour acheter des choses et pour en revendre. On s'est rendu compte que le problème était que ces singes, ils ont les mêmes travers que les nôtres. C'est-à-dire que si on mettait comme directeur de la Banque mondiale ou que sais-je, un grand singe, hélas, on aurait les mêmes problèmes qu'avec les humains, car c'est pareil. Ils veulent toujours retirer plus que ce qu'ils ont mis. Vous voyez, ils ont acheté quelque chose,
ils négocient.
Ils veulent le vendre plus cher. Donc il n'y a pas d'espoir à avoir de ce côté-là.
Et en fait, il y a des espèces d'animaux qui ne sont pas capables de tout ce que vous nous dites là. Bien sûr, il y a une hiérarchie, on a parlé.
C'est pas seulement une hiérarchie, c'est qu'en fonction du contexte, du monde écologique dans lequel vit un animal, il a des défis, il a des problèmes, et tout le monde n'a pas exactement les mêmes problèmes. Ouais. Hein. Ce qui vit dans l'eau n'ont pas les mêmes problèmes que ce qui vit dans l'air. Donc il y a des animaux qui vont avoir moins certains types de performances cognitives, éventuellement ils auront de meilleures performances dans d'autres domaines. Bien entendu, s'il s'agit
dans d'autres domaines, ils entendent très très bien, ou ils voient,
exemple,
ils voient de loin.
Mais celui qui n'a pas besoin d'une compétence cognitive, il ne va pas l'avoir. Il peut s'en débarrasser en quelque sorte. Parce que le principe est un principe d'économie génétique. C'est-à-dire que tout coûte quelque chose en termes d'énergétique, mais de métabolisme. Donc si un système, si un organe, si un système génétique ne vous sert pas, vous aurez tendance à l'éliminer pour ne pas avoir à dépenser quelque chose pour ce système-là. Donc selon le monde dans lequel vous vivez, vous pouvez faire l'économie de tel ou tel type de choses. C'est pas exactement une hiérarchie au sens où on l'entend habituellement, où on aurait l'impression qu'il y a en tête du peloton les humains, puis les autres grands singes, puis les autres singes, et ainsi de suite.
Avec les gastéropodes, par exemple.
Les gastéropodes étant évidemment plus bas. Mmh. Mais justement, c'est intéressant que vous parliez des gastéropodes, parce que les gastéropodes, on n'a pas grand-chose sur leur intelligence, mais il y a d'autres mollusques qui sont les céphalopodes, qui sont aussi des mollusques, qui semblent très doués cognitivement et qui ont beaucoup de capacités cognitives assez proches de celles de l'espèce humaine. Mais ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'il existe plusieurs groupes qui ont des capacités à peu près comparables à celles de l'espèce humaine. Ce sont les grands singes dans l'ensemble, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas surprenant puisque nous sommes tous des grands singes. Certains cétacés, comme les dauphins, les corvidés dont on a parlé, et les psittacidés, c'est le groupe des perroquets. Donc quatre groupes qui, du point de vue phylogénétique, sont très différents, qui ne sont pas parents directs les uns des autres, qui ont des compétences cognitives assez proches. C'est-à-dire qu'ils résolvent des problèmes intellectuels à peu près de la même manière. Et c'est intéressant de voir que donc l'intelligence au sens humain est apparue plusieurs fois dans différents types d'espèces animales. Et on pourrait ajouter, c'est assez différent, les céphalopodes, je dis ça à cause des gastéropodes dont vous parlez tout à l'heure. Et bien sûr, il y a aussi chez les insectes, ça a été surtout étudié chez les abeilles, des performances cognitives assez extraordinaires.
Yves-Christine, si on parle maintenant de la sensibilité des animaux, ils chérissent leur famille, ils sont capables de souffrir, ils sont capables de jalousie, tout ça a été observé depuis bien longtemps. Il y a des choses récentes à ce sujet aussi.
Oh, je dois dire que chaque fois que quelqu'un jette un regard sur une espèce animale, il trouve, pour ce qui est quand même des questions relatives à la sensibilité,
mort,
à la souffrance, aux émotions, on parle surtout de comportements qui concernent les mammifères et les oiseaux. Il n'est pas sûr qu'on trouverait la même chose chez les vers de terre, mais personne n'est allé regarder. D'abord, il y a les animaux qui sont plus ou moins sociaux et que celui qui ne s'occupe pas de ses enfants, il n'est pas évident qu'il ait besoin d'avoir des sentiments de tristesse quand il perd sa progéniture. Celui qui consacre, celui ou celle, parce que c'est plutôt les femelles que les mâles d'ailleurs, celui ou celle qui consacre du temps à sa progéniture, ça fait sens qu'elle ne soit pas contente de l'avoir dévorée par un prédateur.
Hein. Mais je pose la question exprès en pensant davantage aux animaux d'élevage, dont on enlève la progéniture aussitôt.
Alors, le cas des animaux d'élevage est un peu singulier parce qu'il est vrai tout de même que les animaux d'élevage, d'abord on les a peu étudiés sur le plan de la cognition et de la sensibilité, pour de bonnes raisons, c'est que si on se rend compte qu'ils souffrent trop, ça va quand même poser un problème. Hein. Mais il est possible que les animaux d'élevage aient perdu certaines capacités cognitives parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Il est évident que entre l'animal qui doit chercher sa nourriture tout seul, en chassant par exemple, et le chat domestique, bon, qui lui est spécial, les chats sont des créatures divines, hein. Mais enfin, lui a beaucoup moins besoin de chercher sa nourriture parce qu'on va la chercher au supermarché à sa place. Donc, un animal domestique peut se délester de certaines capacités cognitives. C'est mieux pour un chat d'avoir affiné son petit air mignon, etc., d'avoir la peau douce et de faire un miaou et de ronronner que d'avoir une capacité cognitive importante pour aller chasser. Donc l'animal domestique peut perdre certaines compétences. Il n'en est pas moins vrai que pour ce qui est des animaux d'élevage, il ne fait aucun doute qu'ils ont des capacités de sensibilité, il ne fait aucun doute que la vache à laquelle vous enlevez le veau est certainement mécontente, il ne fait aucun doute que les animaux qui sont transportés dans des conditions épouvantables sont extrêmement malheureux, il ne fait aucun doute que les poulets en batterie, couverts de poux, etc., qui jacassent toute la journée, sont extrêmement malheureux, ça ne fait aucun doute.
Bien, Yves-Christine, merci infiniment pour tout ce que vous nous apprenez là. L'animal est bien une personne, vous en restez convaincu, ça ne fait aucun doute non plus.
Non, ça fait garde de doute.
Et vous aurez encore du mal à convaincre certains de vos collègues scientifiques. Sûrement,
mais c'est la règle du jeu.
Merci infiniment d'être venu nous trouver. Je rappelle donc, l'animal est-il une personne ?
J'ai pas eu, je crois, en 2009, oui, on l'a tout. Et donc, il est en collection de poche, la collection de chants de chez Flammarion.
Je renvoie aussi sur les surdoués du monde animal, Coco le gorille, que vous aimez bien, Alex le perroquet. Non, il y a beaucoup d'exemples, c'est paru aux éditions du Rocher. Et c'est extrêmement documenté. Alors, on voit aussi, on l'a pas dit, mais comment il jongle avec les mots et les chiffres. Encore quelque chose d'incroyable.
Absolument, oui.
Mais vous vous appuyez, voilà. On donnera quelques références aussi, quelques articles que vous voudrez bien nous faire
puis
passer.
Oui, peut-être aussi l'animal est-il un philosophe, chez Odile Jacob, oui. Voilà.
Plaidoyer pour l'intelligence et la sensibilité animale, ce qui nous emmène à notre thème de demain où il sera question de souffrance animale. Vous l'avez un petit peu anticipé avec les animaux d'élevage. Encore merci.
Merci.
Et donc, un nouveau rendez-vous demain pour Matière à penser. Auparavant, merci à notre équipe de ce soir, Anne-Laure Chanel, en compagnie de Philippe Mercher, le stagiaire, était Colin Gruel. Et merci bien sûr à Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, qui assure la documentation, la préparation et qui vont veiller à faire apparaître ces articles et ces titres dont nous avons parlé ce soir avec Yves-Christine. Très bonne soirée à tous, à demain.